Résonance rocheuse. Résonance. Résonance rocheuse. Avec Laurence Martin, artiste sculptrice fondatrice de la ferme de Tétis. Pier Paolo Brenna, conservateur à la réserve nationale de Ristola-Montviso. Et Julien Godefroy, géologue et géomorphologue à l'ONF. À la découverte des roches des Hautes-Alpes et leurs secrets. Création d'Aline Claire, dans le cadre du projet Épilogue porté par Bienvenue là-haut. Diffusion tous les lundis à 18h.
J'ai quand même fait quelques stages plutôt axés géomorphologie. Donc ça, c'est mon petit côté géomorphologue. Et donc, j'avais étudié une grande vallée qui s'appelle Valles Marineris, qui est un énorme canyon sur Mars. C'était intéressant parce qu'il fallait faire une analogie avec ce qu'on pouvait trouver sur Terre et le comparer avec ce qu'on voyait sur Mars. Et donc, on a observé que typiquement, on retrouvait une vallée glaciaire dans ce canyon de Valles Marineris parce que les versants, comme on en parlait tout à l'heure, c'était vraiment des versants en auge, en U. Alors ça ne ressemblait pas du tout à des vallées en V. En regardant la topographie de ce grand canyon, on s'est aperçu que c'était plutôt un canyon qui était glaciaire, et on soupçonnait même qu'il y a encore de la glace à l'intérieur du canyon. Si on veut aller encore plus loin entre Mars et la Terre, par exemple, qu'est-ce qui les différencie vraiment? Nous, la Terre, on a une atmosphère. En fait, cette atmosphère, elle est là parce qu'on a un champ magnétique. Donc autour de la Terre, on est protégé par un champ magnétique. Ce champ magnétique, il est induit par le noyau qui est situé au centre de la Terre. Donc au centre de la Terre, il y a une petite partie qui est solide, et autour, il y a un noyau liquide. Et en fait, ce noyau, il est fait de fer et de nickel, principalement. Le fait d'avoir un noyau liquide à l'intérieur de la Terre, comme la Terre, elle tourne, en fait, ce noyau liquide, il tourne aussi. Et donc, on met en mouvement du métal. Et donc, quand on met en mouvement du métal, on va créer un champ électrique. Et en fait, tout champ électrique a un champ magnétique associé. Et donc, la Terre, c'est simple, le champ magnétique, il passe par les pôles. Donc ça, c'est assez simple sur Terre. Le fait qu'elle ait assez de chaleur encore pour pouvoir avoir ce noyau liquide, on a un champ magnétique qui est encore possible et donc qui nous protège puisqu'on a une atmosphère. Il nous protège également de toutes les particules qui nous arrivent du soleil. Le soleil, en fait, il crée ce qu'on appelle le vent solaire. Il y a plein de petites éruptions. Donc là, je vous invite à aller à la Maison du Soleil à Saint-Véran pour aller parler du soleil. Et donc, en fait, toutes ces petites éruptions, elles font des grands souffles, ce qu'on appelle le vent solaire, qui transporte des particules qui viennent nous impacter. Donc, elles impactent tout le système solaire. Mais du coup, comme on a un champ magnétique qui est très actif, ça permet de nous protéger contre toutes ces particules. C'est vraiment la particularité de la Terre, c'est qu'elle est à la bonne distance du Soleil et qu'elle a une masse qui est assez conséquente. Du coup, elle est encore, on va dire, en vie, elle produit encore de la chaleur. Alors que si on prend Mars, qui est plus loin, qui est plus petite, elle est totalement refroidie. Donc elle n'a plus de noyau liquide et donc elle n'a plus de champ magnétique. Donc sur Mars, il n'y a pas d'atmosphère. Elle est sans cesse en fait balayée par le vent solaire. Il faut imaginer que si nous on n'avait pas de champ magnétique, eh ben, la Terre petit à petit elle pourrait peut-être ressembler à Mars parce qu'elle n'aurait plus d'atmosphère, ce serait plus viable pour l'homme, ni pour tous les écosystèmes, etc. Si on compare Mars et la Terre, on voit bien que toutes les petites fabuleuses idées là, d'aller vivre sur Mars, ce ne serait pas du tout viable parce qu'il faudrait totalement reconstruire une atmosphère, ce qui est totalement impossible. Vu qu'il n'y a pas de champ magnétique, ça ne serait pas viable pour l'homme parce qu'on se ferait bombarder par toutes les particules solaires. Donc voilà, ça c'est deux points qui distinguent Mars et la Terre. L'avantage de la Terre, c'est que celle-ci, en ayant de la chaleur qui arrive du noyau, elle va mettre en mouvement tout ce qui est à la surface de la Terre. C'est-à-dire que si on prend la Terre dans son ensemble, dans sa structure, elle a donc un noyau. Au milieu, il a ce qu'on appelle un manteau, et en surface, il a ce qu'on appelle une croûte. Et en fait, le fait d'avoir de la chaleur qui arrive du noyau, ça va mettre en mouvement des grandes boucles de la roche en fait qui forme le manteau. Elle fait des énormes boucles. Et en fait, ces boucles, elles vont faire un peu de tapis roulant. Et du coup, la croûte qui est en surface de la Terre, elle va bouger. C'est-à-dire qu'à des moments, elle va se déchirer. Parce que du coup, il y a deux boucles qui vont s'écarter. Et puis, à un endroit, à l'opposé, les deux boucles, elles vont se rencontrer. Ça va faire vraiment des tapis roulants pour la croûte océanique et la croûte continentale. Donc, c'est les deux croûtes qui sont formées à la surface de la Terre. Donc vous allez le deviner, hein, la croûte océanique, c'est plutôt celle qu'on va trouver dans les océans, donc Atlantique, Pacifique, etc. Et les croûtes continentales, c'est vraiment ce qui forme les continents. Et donc en fait, le tapis roulant, il est sans cesse en activité. Et donc tous ces morceaux de croûte, ils vont avancer avec le tapis roulant. Et donc il y a des moments, ils vont passer les uns sous les autres, etc. C'est ici qu'on va créer la tectonique des plaques, avec des zones qu'on appelle de convergence, où en fait les morceaux de croûte, elles vont se rejoindre. Et donc si c'est des croûtes qui ont la même résistance, elles vont former des montagnes. Et si ce sont des croûtes qui ont des résistances et des densités différentes, il y en a une qui va passer sous l'autre, et donc ça va former ce qu'on appelle de la subduction. Sur Mars, comme il n'y a pas de noyau chaud et qui produit de la chaleur, c'est une planète qu'on va dire un peu inerte, il n'y a pas ce système de tapis roulant, et donc il n'y a pas de tectonique des plaques sur Mars. Et donc c'est pour ça qu'on peut observer des cratères à la surface de Mars, comme on observe sur la Lune en fait, hein. Des cratères qui ont été créés par des astéroïdes, et qui sont certainement encore créés, hein, parce qu'on a toujours le croisement de temps en temps d'astéroïdes. Tous ces cratères, ils se sont majoritairement formés peu après la naissance de la Terre, de Mars et des autres planètes. La naissance du système solaire, c'est il y a à peu près 4,6 milliards d'années. En premier, s'est formé le Soleil. Et ensuite, se sont formées les planètes autour. Les planètes se sont formées à peu près à 4,5 milliards d'années. On a d'abord les planètes plutôt telluriques, les planètes rocheuses qui se sont formées. Donc les quatre premières, Mercure, Vénus, Terre et Mars. Et ensuite, ce sont les planètes gazeuses qui, elles, sont plus grosses. Donc Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et donc, dans les premiers moments de vie de la Terre, donc même de toutes les planètes, hein, il y a encore eu ce qu'on appelle le grand bombardement tardif. Donc il y avait encore plein d'astéroïdes qui étaient dans le système solaire. Et en fait, ils sont venus bombarder toutes les planètes. C'est là que se sont formés la majorité des cratères qu'on peut observer sur Mars et sur la Lune. Et la Terre, en fait, elle a été tout aussi impactée, sauf que liée à la tectonique des plaques, ainsi que notre végétation, à notre géomorphologie, nos érosions, etc. Et bien, du coup, les cratères sont beaucoup plus difficiles à observer, notamment en zone de montagne. Typiquement, ici, on est sur des roches qui sont plutôt récentes sur l'histoire de la Terre. Sur une échelle de 4,5 milliards d'années, finalement, 250 millions d'années, c'est quand même assez jeune pour l'histoire de la Terre. Donc, c'est des roches qui se sont formées dans un océan, l'océan alpin. Et donc, forcément, c'était bien après ce grand bombardement tardif par les astéroïdes. La subduction, c'est quand tu as un océan qui existe. Petit à petit, l'océan va se fermer, parce que ça pousse le changement, on va dire, tectonique est différent. Du coup, avant, on était en extension, donc on a ouvert un océan en formant du coup des basaltes, du gabbro, des péridotites, etc. Et puis après, on a commencé à refermer l'océan. Donc du coup, là, c'est les plaques qui vont revenir les unes vers les autres. Et du coup, il y a une plaque qui va être plus lourde, plus dense, et elle va entrer en subduction. Du coup, elle va plonger sous l'autre, et du coup, on va raccourcir l'océan, etc. Et du coup, il y a des roches qui vont passer en profondeur en suivant la subduction. Mais en fait, il se trouve que de temps en temps, avec des jeux de failles, de réajustements, de densité et compagnie, il y a des écailles qui vont remonter à la surface. Et du coup, il faut imaginer que les minéraux qu'il y a dans ta roche, en fait, elles vont suivre un chemin de température et de pression qui va en fait transformer les minéraux. Quand ils vont après remonter, ils vont encore subir une transformation. Tu pars à la base d'une roche qui s'appelle un gabbro, et tu vas te retrouver avec une roche qui s'appelle un métagabbro. Et tu as plusieurs façons de l'appeler, selon les minéraux que tu vas trouver dedans. Ça peut être un métagabbro à schiste bleu, un métagabbro à schiste vert, etc. Et en fait, selon les minéraux que tu retrouves dedans, tu peux connaître la profondeur et la température et la pression à laquelle la roche a été soumise. Et du coup, ça nous permet de savoir que, par exemple, vers le massif de la Doramera, côté italien, là, juste derrière la frontière avec le Kera et l'Ubaye, et bien en fait, on a des roches qui sont passées à peut-être plus de 20 km de profondeur, parce qu'on a retrouvé des minéraux dedans qui sont vraiment marquants, ce sont des marqueurs en fait, d'une température et d'une pression qu'on retrouve à telle profondeur dans la Terre. Et on sait qu'elles sont ensuite remontées à la surface. Donc les roches, elles peuvent subir pas mal de transformations.
Vous venez d'écouter Résonance Rocheuse par Aline Claire.